Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, suffragettes laguées du début du XXe siècle, féministes, moustachues, femmes humanistes, minorées de tous les pays, bonjour et bienvenue. Vous écoutez L'Onde Curieuse, bonne pioche, vous gagnez 10 points de vie. Bravo, merci Nico qui est là dans ce studio avec nous.
Salut.
Et j'en profite aussi pour dire bonjour à Sylvain, aux manettes comme toujours.
Bonjour.
Ouais.
Aujourd'hui, alors que les parlementaires français, députés et sénateurs s'apprêtent à inscrire dans la Constitution française à l'article 34, non pas le droit, mais la liberté d'avoir recours à l'IVG, selon les termes précis, la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Donc c'est l'individu et non la solidarité qui est au centre, mais bon. Alors donc, que le 8 mars ne ressemblera pas à celui de l'année dernière, c'est une bonne nouvelle qui ne doit pas cacher la forêt de recul à ce niveau, que ce soit aux États-Unis ou en Europe de l'Est. Nous en profitons pour voir quels sont les combats et les actions sur notre territoire pour faire avancer l'égalité femmes-hommes. Et spécifiquement à l'occasion du 8 mars, cette journée internationale des droits des femmes qui n'est pas toujours bien comprise et qui se transforme quelquefois, ravage du capitalisme oblige, en opération une culotte achetée égale un string offert. Pour en parler, nous serons avec Josette et Alizé du collectif du 8 mars. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Qui prépare activement la journée de mobilisation donc du 8 mars, de vendredi. Et nous serons également par téléphone avec Nathalie Exmelin, directrice du CIDFF Ardèche, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui sera là pour évoquer notamment la place des femmes dans l'espace public. Bonjour à vous, Nathalie Exmelin.
Bonjour.
Et merci d'être là parmi nous, avec nous. On en parle dans quelques instants, mais d'abord, quelques nouvelles du jour. Avant de laisser la parole à Nico, deux petites infos. Plus de curetage, mais de la cure, du care, du soin. Chacun essaie de proposer un geste, une action, une opération pour le 8 mars. Alors, est-ce que c'est du femme-washing ou du pink-washing, peut-être, ou simplement de belles initiatives, je ne sais pas. J'ai révélé celle-ci, une petite opération, une petite opération aujourd'hui jusqu'à 17h dans les locaux du centre mutualiste Aesio, au 6 rue de la Pourrette, sont organisées gratuitement des séances de massage crânien assis, 100% féminin. Le responsable de la mutuelle, Roland Vernet, d'après le Dauphiné Libéré dans lequel j'ai pris l'information, s'engage en faveur du bien-être au féminin. Alors, il y a peu de place, donc priorité sera offerte aux adhérents de la mutuelle. Et je m'interroge toujours, lorsque je vois une telle proposition, car il faut bien avoir conscience du fait que les mutuelles privées, les assurances complémentaires, ont tout intérêt à promouvoir des pratiques non remboursées par la Sécurité sociale, comme toutes les médecines complémentaires ou les thérapies alternatives. Une question de résistance à l'oppression. En musique aussi, mais là je ne parle pas de féminisme, mais du blues, puisque une conférence de l'Université populaire de la Basse-Ardèche est proposée ce soir à 18h30 à l'espace dédié de Pont-du-Sel pour retracer l'histoire du blues, de l'esclavage au champ de coton jusqu'à la naissance du rock en Europe et en France. C'est une conférence qui sera animée par Jean-François Thomas. Les réservations sont obligatoires, vous trouverez tous les renseignements et la manière de vous inscrire auprès du site de l'Université populaire. Nico, toi tu vas nous proposer quelques événements dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes.
Oui, complètement. Il y a plein de choses qui se préparent, notamment à Privas. Donc voilà. Jeudi 7, entre autres, vous avez un spectacle qui s'appelle Femmes au travail. C'est une lecture spectacle sur une histoire de travail au féminin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est sur Privas. Ça se passe à l'atelier 3 rue Sainte-Anne. Ça se passe jeudi 7 mars ou samedi 9 mars à 19h. L'entrée est à 10€ et vous pouvez réserver par SMS au 06 77 25 41 92. Ça, c'est pour un spectacle Femmes au travail.
Pas de panique, l'émission est en replay. Donc, pour retrouver le numéro de téléphone, allez sur le site internet de Fréquence 7.
Ouais, le 7 mars aussi, vous avez un spectacle aux archives départementales de l'Ardèche, place André Malraux. C'est à 18h30, c'est une comédie par Thomas, le comédien Ostermann, pardon, qui présentera « Quelque part dans les ronces, les mémoires d'une sage-femme en Ardèche ». C'est l'adaptation des mémoires de Marie-Noël Batte, je sais pas comment on dit, qui était sage-femme en Ardèche de 1935 jusqu'à 1981. Et ce spectacle, donc, le 7 mars, sera suivi d'un débat. Ça se passe donc aux archives départementales de l'Ardèche. Le 8 mars, le jour J, dans Privas, vous avez l'association Femmes d'ici d'ailleurs qui propose deux expositions. Une en plein air dans les rues de la ville et l'autre à la maison de Privas. Alors, pour celle qui est en expo en plein air, ça s'appelle Étonnante voyageuse. Autour du monde, exactement. Et c'est sur des bâches positionnées au centre-ville. Vous avez des portraits de femmes qui ont franchi les frontières ainsi que les codes de leur époque pour partir à l'aventure. Et cette exposition, donc, elle est dans les rues de la ville à Privas, donc jusqu'au 1er avril. À la maison de Privas, à partir du 8 mars, donc jusqu'au 17 mars, vous avez une expo de peinture et de sculpture qui s'appelle Muse, qui est issu d'un travail, une réflexion sur les femmes et l'écologie. Et vous avez aussi à l'espace Envol, la Fédération des œuvres laïques, qui offre du 8 au 15 mars une exposition de peinture, de photos, de sculptures sur terre et de sculptures sur bois, fait par 4 artistes féminines. Et le 8 mars, à 18h30, il y aura une soirée spéciale, avec aussi de la calligraphie, des chorales et... Et il y a aussi les interventions d'autres associations militantes sur les droits de la femme. Et pour finir sur un truc 100% girly, quoi.
100% girly, j'adore. Alors, c'est le dress code rose paillette.
C'est le dress code. Ils ont appelé ça soirée girl power. Ouais. C'est... enfin, je pourrais pas y aller, moi, mais bon. Vendredi 8 mars, et ça se passe au VNB, à la zone Harry Potier d'Aubenas. Donc, c'est une soirée 100% femme. Vous aurez du tatouage. Ils ont prévu du tatouage, un karaoké de folie, un shooting photo, du tarot divinatoire, des stands bien-être lingerie, un bar à cocktail, etc. Enfin bref, elles sont entre elles, elles ont juste gardé quelques gars pour faire le ménage, le service, etc. Et vendredi, voilà. Il y a plein de choses à faire, entre autres. Mais je suis sûr que tu en trouveras d'ici là encore.
Mais oui, il y a plein de choses. Mais c'est vrai, voilà, une opération... une culotte achetée, un string offert. Voilà.
C'est vrai que ça se décline sous toutes les formes. Hein,
mais c'est ça se décline, tu as raison, tu as tout à fait raison, ça se décline. Alors,
que faire, que choisir, quoi aller. De toute façon, enfin, en ce qui me concerne, on n'est pas beaucoup, là, on est deux avec Sylvain, homme dans le studio.
La frontière ne passe pas forcément entre les hommes et les femmes. Heureusement, il y a des hommes féministes et malheureusement, il y a des femmes qui ne le sont pas.
Et de toute façon, on en déplaise à certains, on a tous un côté féminin et un côté masculin. Bon,
mais au-delà de ça, c'est une question quand même de droit.
Ouais. C'est vrai.
Et de lutte pour les droits et l'égalité femmes-hommes.
Qui, on le rappelle quand même, biologiquement...
Tu viens de couper la parole à Sophie, c'était un bel exemple.
C'était pas mal, mais je finis mon truc. C'est vrai qu'on est quand même dans une société qui est encore patriarcale, alors que de toute façon, à tous les niveaux, nous sortons tous d'une matrice qui est obligatoirement féminine, quoi. Mais bon.
Jusqu'à ce jour. Yeah. On en parlera, ça va être le sujet du magazine, mais juste deux petites infos complémentaires sur le 8 mars. Villeneuve en égalité, c'est toute une semaine proposée justement par Villeneuve de Berre. Vous trouverez expos, conférences, documentaires et échanges sur les violences sexistes et sexuelles au travail. Ça, ce sera le 7 mars, jeudi, avec aussi un temps d'échange sur l'égalité filles-garçons à 13h30 à l'école avec des animateurs. Et puis la conférence dont on va parler dans cette deuxième partie sur la place des femmes dans l'espace public, ça ce sera mardi 5 mars de 18h à 21h. Cette conférence donc sera proposée par la directrice du Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Et j'en profite pour dire que mercredi également, il y aura une permanence d'information juridique, comme tous les premiers mercredis du mois, dans les locaux de la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche, donc proposée par le CIDFF, une permanence d'information juridique et d'aide aux victimes par un juriste qui est là, donc tous les premiers mercredis du mois de 14h à 17h. Allez, on continue en musique.
El estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola, soy Valeria. Soy la niña que luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida.
Que le féminicide tombe avec force, voilà ce que chante Conciencia Miedo. Nous chantons Sans peur de la mexicaine Vivir Quintana, paru en 2020 déjà, et c'est le choix musical du collectif du 8 mars qui est avec nous ce midi par la voix de Josette et Alizée. Rebonjour à toutes les deux. Vous êtes là pour nous parler notamment de ce qui se trame vendredi à Aubenas à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Et est également avec nous par téléphone Nathalie Exmelin, directrice du CIDFF Ardèche, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui nous parlera de la place des femmes dans l'espace public, puisque vous donnez, Nathalie, une conférence sur ce sujet demain à 18h à Villeneuve-de-Berre, dans le cadre de Villeneuve en égalité. Ma première question pour vous, Nathalie, donc d'abord merci d'être avec nous. Qu'entendez-vous exactement par la place des femmes dans l'espace public? Public. Est-ce que c'est une notion géographique, la place publique étant peut-être la ville, la cité, les rues, ou est-ce que c'est un espace public au sens plus politique de la chose publique ?
Alors, c'est vrai que l'espace public peut offrir une définition au sens large. Donc l'espace public, ce sont les rues, c'est la ville, c'est les parcs, c'est l'aménagement. Mais l'espace public, c'est aussi les réseaux sociaux, hein, puisque maintenant nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, les Facebook, Instagram, TikTok et ce qui s'ensuit. Mais c'est également, effectivement, comme vous l'avez souligné, la politique. Voilà, donc tout ça au sens large. Demain, le débat se concentrera peut-être un peu plus, effectivement, déjà sur l'aménagement de l'espace public, qu'il aille de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, puisque cet espace public est aussi source d'inspiration, de discrimination pour les femmes.
Avant d'entrer dans le cœur du sujet, donc de la place des femmes dans l'espace public, cette conférence est à l'initiative de qui ? Est-ce que c'est la mairie qui vous a demandé d'intervenir ?
Tout à fait, tout à fait. C'est une initiative de la mairie. C'est notamment destiné principalement aux élus, justement pour les sensibiliser aussi au fait que rien n'est anodin quand on aménage un territoire et qu'il faut penser à tous. Donc on pense aux femmes, mais il n'y a pas que les femmes, puisque dans la discrimination, il y a également les personnes handicapées, etc. Mmh. Et quelque part indirectement, toujours les femmes, puisque ce sont les femmes qui s'occupent bien souvent des personnes en situation de handicap. Voilà. Donc effectivement les sensibiliser aussi aux enjeux que peuvent avoir justement ces aménagements.
Mmh. Est-ce que vous êtes sollicité souvent par des élus pour avoir une expertise ?
Alors oui. J'avoue que pour ce sujet-là, c'est une première. Et j'en remercie d'ailleurs la commune de Villeneuve-de-Berg, parce que du coup, ce sujet est passionnant et je m'aperçois qu'effectivement, autant dans ce que pouvaient projeter les médias, etc., j'avais cette sensibilité-là. Également sur les choix qu'on peut imposer aux petits garçons et aux petites filles, mais c'est vrai que la notion espace public tel qu'on l'entend à différents niveaux, je n'avais pas ce regard-là et ça, je dirais que ça rajoute une corde à mon arc et en tout cas j'en remercie la commune.
Alors, parlons un peu du constat sur la place des femmes dans l'espace public. Vous nous disiez ça se joue dès la cour de récré, c'est ça ?
Dès la cour de récré, je vous invite simplement à vous rappeler, ou si vous avez des enfants en bas âge, la configuration de la cour, de regarder comment se déplacent et se meuvent effectivement les petits garçons et les petites filles. Et on va vite s'apercevoir que la place centrale est occupée par les petits garçons, par des jeux, je dirais, actifs, hein, tels que le foot, ballon prisonnier, parfois il y a des petits vélos, etc. Et qu'autour, nous sommes sur des positions un peu plus sages, un peu plus écartées, avec les petits bancs accaparés par les petites filles, ou la corde à sauter, ou la marraine, voilà, qui fait qu'effectivement, déjà, on sépare le petit garçon de la petite fille et de leur façon de s'occuper, d'occuper l'espace, justement. Ouais.
Les garçons au centre et les filles à la marge. Alizée, tu voulais réagir ?
Oui. Je voulais juste dire qu'il y a un super film documentaire qui parle de ça, qui s'appelle Espace, au pluriel, d'Éléonore Gilbert, et où elle filme sa fille qui raconte comment ça se passe dans son école. C'est très parlant.
Tout à fait. Tout à fait.
Merci.
Merci.
Donc après le temps de l'enfance, quels sont les autres exemples qu'on peut sortir de justement cette occupation différenciée selon les genres de l'espace public ?
Eh ben il suffit là encore, vous sortez, vous allez en ville, pas plus loin qu'au centre d'Aubenas, et là qu'est-ce que vous constatez ? Vous constatez que la rue est traversante pour les femmes. Et qui occupe encore, soulignons-le, 80% des tâches ménagères, donc qui n'ont pas forcément le temps de flâner. Et si on prend la notion de flâner, une femme qui flâne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire peut-être qu'une femme est un peu disponible. Hein. Ça, c'est aussi ce côté-là qui pour elle porte préjudice. Mais en tout cas, traversez la rue et vous verrez qu'au café du coin, vous aurez peut-être une femme ou deux, mais majoritairement des hommes. Voilà. Il en va de même sur les parcs aménagés en termes de loisirs. Vous verrez qu'effectivement, on aura plus de stades de foot occupés par les garçons ou alors de city, notamment pour le skate, etc., où on verra effectivement également plus de garçons. Pour les hommes, ce sera le terrain de boules. Voilà. Et les femmes ne feront que traverser, ne feront que traverser la ville. Voilà.
Quand j'ai fait quelques petites recherches justement sur la place des femmes dans l'espace public, je suis tout de suite tombée sur des articles mettant en avant la sécurisation nécessaire des espaces publics pour la protection des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin, je sens là autour de moi que ça fait réagir, mais j'ai l'impression que le problème est pris à l'envers.
Bah, il y a un double aspect, hein, déjà. Mmh. Un double aspect, je comprends que ça fasse vibrer. Effectivement, on demande toujours aux femmes de se prémunir ou de mettre en place, je dirais, des stratégies. Éviter de porter des mini-jupes, surtout quand la nuit tombe. Ou ne pas sortir seule, parce qu'une femme ne peut pas sortir seule. Ça évoque quand même quelque chose de provoquant. Voilà. Mais si on retournait le sujet à l'inverse, et si on éduquait ces jeunes hommes pour ne pas en faire des proies forcément. Là aussi, dans cette différenciation, c'est là qu'on retrouve nos problèmes. Hein. Mmh. C'est-à-dire que d'office, on est de nouveau sur une différenciation homme-femme. Les femmes se savent, entre guillemets, de potentielles proies. Et les hommes, la fragilité de la femme permet une espèce de sentiment de domination. Voilà. Donc effectivement, on se dit que pour, ne serait-ce que pour les rassurer, aménager l'espace public avec de la luminosité. Ce qui n'est pas un autre avantage, je tiens à le dire, ces derniers temps, avec les économies que peuvent faire les communes, et qu'on se retrouve effectivement avec des parties de la commune plongées dans le noir, et qui renforcent, entre guillemets, une fois de plus, cette inégalité d'accès à l'espace public pour les femmes.
Mmh. Quelle est la tendance ? Est-ce qu'on est quand même vers une amélioration de l'égalité femmes-hommes dans l'espace public ? Ou est-ce qu'il y a, ce qu'on voit par ailleurs sur d'autres sujets, un backlash, un retour de bâton après de grandes avancées ? Alors, vous êtes toutes les trois, vous pouvez toutes les trois intervenir. Josette, par exemple.
Bien, je pense qu'effectivement, il y a un recul. Il y a eu des avancées, je dirais, de grosses avancées qui ont été faites dans les années 60-70 par des groupes féministes. Mais si ces avancées avaient été, je dirais, pas reprises par les hommes, on n'aurait pas mis tout actuellement, tout simplement. Je le pense. Et donc, quelque part, c'est aussi un retour en arrière, quelque part.
Mais ce que je voulais dire par rapport à la question de l'espace public, c'est que la réponse tout sécuritaire, pour moi, c'est pas la bonne, notamment parce que les personnes qui sont en charge dans notre société de la sécurité ne sont absolument pas exemptes de stéréotypes racistes et sexistes, et que de proposer comme unique réponse la réponse sécuritaire, pour moi, ça renforce ces discriminations, qu'elles soient sexistes ou racistes. Et par exemple, on sait que la prise en charge des femmes racisées en France ne va pas être du tout la même que la prise en charge des femmes blanches. Donc je ne pense pas que ça soit la bonne stratégie, ou en tout cas pas l'unique.
Et pour continuer sur la sécurité, on voit beaucoup d'agents de sécurité, mais pas beaucoup d'agentes de sécurité.
Nathalie Exmelin, sur cette question de progression ou de retour en arrière de l'égalité homme-femme dans l'espace public ?
Bah, on a pu s'apercevoir effectivement sous le secret, entre guillemets, des piscines municipales se fermaient, alors qu'elles présentaient quand même un certain accès sur les femmes, pour les femmes et leurs enfants, au bénéfice de City, effectivement, où on le voit, 100% ce sont des garçons qui l'investissent. Même chose si on parle du coiffeur, le coiffeur des femmes est mixte. Et on voit apparaître de plus en plus des barbiers, etc. Et donc, du coup, une fois de plus, une espèce de barrière qui tombe sur le fait que la femme n'a pas accès à ce genre de service. Voilà. Il en va de même, il y a plein d'exemples, les toilettes publiques, par exemple. Calculer le nombre de toilettes publiques dans Aubenas. et l'accès aux toilettes publiques. Alors effectivement, la pissotière est encore d'accès, des fois, parce qu'elle est juste dans l'entrée des toilettes publiques, mais la femme n'a plus le droit d'accéder aux toilettes publiques. Mmh. Voilà. Donc effectivement, je dirais que s'il n'y a pas de recul, en tout cas, la pensée n'y est pas, hein, en parlant espace public. Pour le reste, je pense qu'effectivement, je rejoins mes consœurs, il y a un recul, malheureusement, du féminisme et du sentiment d'égalité femmes-hommes.
Alors, on va creuser un peu cette question avec donc le collectif du 8 mars. D'abord, alors même s'il y a un indice dans le nom, qu'est-ce que ce collectif ?
Vas-y, tu veux commencer ? Alors, le collectif, il s'est formé il y a quelques années à l'initiative de femmes syndiquées de la CGT et de la CNT. Peut-être que Josette, tu veux dire deux mots là-dessus ?
Oui, c'est-à-dire c'était en 2019. Donc, à l'initiative de personnes syndiquées et de différents syndicats.
Dont tu fais partie.
Dont je fais partie en tant que secrétaire générale de la CGT de l'Union locale d'Aubenas. Et avec des gens d'autres syndicats comme la CNT, comme Sud également. Donc à l'occasion donc du 1er 8 mars, c'est pour ça que le nom du collectif, c'était au départ le collectif du 8 mars, des femmes du 8 mars. Ensuite, nous avons changé de nom l'année dernière pour passer à collectif féministe du 8 mars. Et une des premières choses que nous avons revendiquées et qui n'a pas été suivie par tous, c'était justement la non-mixité dans ce collectif. Et personnellement, au début, je n'avais pas forcément d'idée et je pense que c'est nécessaire.
Pourquoi ce serait nécessaire ? Pourquoi c'est nécessaire, Josette et Alizé ?
Alors moi, je donne mon opinion, puisque je suis plus toute jeune maintenant, et qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mouvements féministes dans les années 60-70 ont fait des grands bonds, mais il faut pas oublier que au début du siècle dernier, donc pas ce siècle-ci, le siècle dernier, dans les années 1900, les syndicats étaient fermés aux femmes. Après les guerres de 14, histoire oblige, il y avait moins d'hommes, les femmes sont passées à l'usine, et là, elles ont créé leur propre syndicat. Et ensuite, retour de guerre, les femmes ont été intégrées complètement dans les syndicats qui étaient au départ masculins, et elles ont eu, en fait, la place qu'elles avaient obtenue et pour laquelle elles s'étaient bagarrées. Ça a été amoindri, puisque elles ont été entre guillemets récupérées par les hommes. Et si ça ne s'était pas passé comme ça, si vraiment les femmes avaient continué d'être, je dirais, porte-parole, comme elles l'ont été dans les années 20, juste après-guerre, la première guerre mondiale, il n'y aurait pas ces problèmes qu'on le rencontre actuellement dans le travail. Mmh. Elles se battaient déjà pour une égalité salariale en 1920. On ne l'a toujours pas en 2020.
On va rappeler effectivement les chiffres, Alizé, sur cette question de la mixité.
Oui, pour moi, ça sert à deux choses, la non-mixité. La première, c'est qu'on sait que dans les organisations politiques, de par nos éducations, etc., il y a une tendance globale à ce que les hommes soient plus à l'aise pour prendre la parole, pour prendre le dessus dans les discussions. Et donc le fait d'être en non-mixité, ça permet d'éviter ce déséquilibre. Et puis la deuxième chose qui est dans la continuité, c'est que du coup, ça permet aussi aux femmes qui sont présentes, de prendre confiance en elles, d'échanger dans un cadre sécurisé, où on comprend, parce qu'on a des réalités qui sont proches, même si elles ne sont pas toujours les mêmes, et où on peut aller plus vite finalement sur des choses, sur notre politisation, sur notre prise de confiance, pour prendre petit à petit la parole en public, etc. Pour faire vite.
Collectif, alors, quels sont justement vos objectifs, vos pratiques au sein de ce collectif du 8 mars
Il y a plusieurs activités. La première, c'est l'organisation de manifestations publiques, donc au 8 mars et au 25 novembre. Donc ça, on essaie de le faire chaque année.
Ouais. 25 novembre.
Journée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Voilà, on organise aussi des événements depuis plusieurs années, où le CIDFF organise aussi des choses d'ailleurs. Mmh. Et donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, ça va être des actions qu'on va plus mener au quotidien tout au long de l'année. Donc on a une émission sur Fréquence 7 le deuxième et quatrième jeudi du mois à 18h, qui s'appelle La Collective, où là on développe chaque mois une thématique autour des luttes féministes. Et la deuxième commission qui est en train de se mettre en place depuis peu, c'est une commission autour d'un soutien aux victimes de violences sexistes et sexuelles, qu'on va lancer là à l'occasion du 8 mars une cagnotte qui aura pour but de récolter de l'argent afin d'aider les personnes victimes de violences, de les aider financièrement à mener leur démarche judiciaire. Et avec la logique que si elle récupère l'argent suite au procès, cet argent soit réinvesti pour d'autres victimes.
Mmh. Et est-ce que sur ces questions, notamment, vous collaborez avec le CIDFF ?
Tu veux y aller, Josette ?
Disons qu'on collabore pas forcément avec le CIDFF, mais c'est vrai que par exemple, dans nos permanences juridiques syndicales, on rencontre des femmes qui viennent... pour des problèmes de harcèlement sexuel, on les oriente vers le CIDFF, comme on peut les orienter vers les assistantes sociales également, qui sont des points vraiment importants à contacter pour éviter que les choses soient remises et recommencent.
Plus globalement, nous, ce qu'on se dit au collectif, c'est qu'on est là à la fois pour visibiliser ces questions sur le territoire et pour faire le lien avec les autres organisations. C'est-à-dire que nous, on va pas faire d'accompagnement individuel. Par contre, on essaie d'être en capacité de renvoyer les personnes vers le planning, vers le CIDFF, etc. D'être un relais, quoi.
Bien sûr.
Sur cette journée spécifique du 8 mars, quel est l'angle d'approche ?
Face aux attaques du gouvernement, des droites et des extrêmes droites, partout, les femmes résistent. C'est le slogan de cette année.
C'est le slogan de cette année. Et vous appelez aussi à la grève donc, du travail, des tâches domestiques, de la consommation. J'ai trouvé ça très intéressant. Une grève de la consommation, bon, ça ne devrait pas être qu'un seul jour, mais enfin, quel est le... Pourquoi ?
Si
je voulais expliquer, Josette.
Alors, grève de la consommation, parce que les femmes, sont celles qui consomment les enfants au niveau du foyer, que l'on consomme également, il faut le dire. Je pense que c'est l'idée.
Globalement, je pense que l'idée, c'est de montrer le poids qu'ont les femmes dans le système économique en France. Donc, en arrêtant de travailler, en arrêtant de faire les tâches domestiques et en arrêtant de consommer, on montre bien la place que les femmes ont dans toutes ces activités. Et donc, dans le poids économique, leur poids économique.
Voilà. Sachant que, à partir de 15h40, tous les jours, les femmes travaillent bénévolement.
Alors, expliquez-nous. Donc, c'est le principe aussi de cet appel à mobilisation. Donc, vous appelez est-ce que vous appelez toutes les femmes ou est-ce que vous appelez tout le monde ?
Alors, pour la grève, c'est plus spécifiquement les femmes, les personnes qui se considèrent, qui sont perçues comme femmes dans notre société. Et pour la manif, par contre, c'est en mixité. On invite tous nos alliés, quel que soit leur genre, à venir nous rejoindre et à chanter avec nous dans les rues d'Aubenas.
Donc, vous les invitez à venir dès 15h40.
Oui.
Alors, d'abord, les femmes, pourquoi 15h40 ? Pourquoi grève à 15h40 ? À quoi ça correspond, Josette ?
Parce que les femmes à travail égal touchent 18,5% de salaire en moins pour un travail à temps plein, je parle, un travail égal d'un homme. Dans le privé et le semi-public, les femmes touchent 18,5% de salaire en moins.
Qui s'explique ? Comment ?
Qui ne s'explique pas ?
Voilà.
Voilà. C'est bien là le problème. C'est pour ça qu'à partir de 15h40, les femmes travaillent bénévolement. C'est tout.
Nathalie Exmelin, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas, si vous souhaitez réagir justement, notamment sur cette question d'inégalité salariale incompréhensible et injustifiable.
Il faut savoir, je rajoute juste un petit peu, il faut savoir que l'écart est encore plus important chez les cadres.
Merci de cette précision.
Alors on en revient, je dirais, à la définition première, hein, c'est-à-dire la fameuse société patriarcale et puis notre éducation, je vous disais, les petites filles sont sages et les garçons dynamiques, et ben ça joue aussi dans nos choix de carrière. Donc les femmes sont malheureusement concentrées sur 12 corps de métier sur 85 références en France, qui font qu'effectivement, et ben il y a un sentiment d'exploitation qui peut se faire. Donc on est dans le soin. Hein, on est dans le service à la personne, on est dans l'éducation, ça vous étonne. Voilà, donc du coup, effectivement, ça contribue déjà à cet écart salarial. Et ensuite, eh bien entendu, comme on est des femmes fragiles et bien éduquées, on parlait de temps de parole, là, lisez... me semble-t-il évoquer effectivement le temps de parole des hommes, mais c'est la même chose. Les femmes n'ont pas cette fibre de la négociation. Mmh. Voilà, donc du coup, un espèce de profit aussi à ce niveau-là. Parce qu'on a beau dire que les conventions collectives nous protègent ou quoi que ce soit, n'oublions pas les primes et puis les possibilités d'évolution. Donc effectivement, à partir de 15h20, on n'est plus payé, ou si vous préférez, à partir de mi-novembre, on n'est plus payé. Voilà, le résultat est le même. A priori, on explique par des zones géographiques, par des zones de secteurs d'activité, nos différences salariales, enfin si on peut appeler ça une explication. Et par contre, il y a 9% qui sont complètement aléatoires et qui sont au détriment des salaires des femmes. Voilà.
Merci de cette précision. Alizée, je voulais ajouter.
Oui, je voulais juste dire que la fibre de la négociation, ça se cultive, ça s'entretient, et que plus il y aura de femmes présentes, normalement, notamment dans les autres organisations syndicales, plus on arrivera à défendre nos droits.
Oui, tout est vraiment une question, encore une fois, d'éducation. J'en profite aussi pour dire que vous, CIDFF, vous allez proposer, notamment pendant cette journée, un temps auprès des lycéens, justement.
Tout à fait. Donc déjà l'an dernier, nous avions organisé ce qu'on appelle un carrefour des métiers. Cette année, c'est pas de femmes sur la touche. En fait, nous nous sommes aperçus qu'on travaille énormément avec les partenaires, hein, que ce soit les partenaires de l'insertion professionnelle, de l'éducation nationale, et j'en passe, et je m'excuse auprès de mes collègues. Mais en tout cas, on travaille énormément, et on trouvait intéressant que justement, pour une fois, plutôt que d'avoir quelque chose d'un peu descendant dans notre manière de sensibiliser les jeunes, ce seraient les jeunes qui poseraient des questions à nos partenaires, de façon à justement... à ce qu'ils soient actifs dans les questions qu'ils peuvent poser. Bien souvent, les jeunes ne savent même pas pourquoi on parle d'égalité, parce que pour eux, c'est une notion complètement à part. Donc là, ce sera justement un espèce de... sur trois lieux, sur le quartier des Oliviers, nous allons faire des groupes où les jeunes poseront des questions à nos partenaires. Et la matinée se terminera avec une petite représentation théâtrale, justement, sur tout ce qui est stéréotypes et droits des femmes.
Merci. Oui, dans une optique un peu d'éducation populaire, ce qui revient justement au collectif du 8 mars. Vous allez proposer, vous aussi, un spectacle, une conférence gesticulée.
Alors en fait, la journée du 8 mars, on la co-organise avec les centres sociaux d'Aubenas, ou plus précisément, nous, on organise plus spécifiquement la manif, qui est donc à partir de 15h30 à Aubenas, et les centres sociaux organisent des événements toute la journée. Donc le matin, à l'ASA, on va faire des ateliers avec donc le collectif et les adhérentes des centres sociaux. On va préparer la manif, on va réviser nos chansons, nos slogans, etc. Il y a aussi des ateliers bien-être et autres qui sont organisés. Et le soir, donc, il y a en effet une conférence gesticulée qui s'appelle l'arnaque de la princesse, et qui est invitée par les centres sociaux. Et voilà.
L'arnaque de la princesse à 18h, oui, sur l'éducation sexiste, l'habituation aux violences faites aux femmes, ou à ce qu'on peut appeler aussi la culture du viol. Donc c'est le collectif Régalons-nous. Il nous reste très peu de temps, si vous voulez dire un dernier mot, Josette.
Oui, mais je voulais dire que quand même, il y a un espoir. Nous, au niveau syndical, on a quand même une secrétaire générale nationale qui est maintenant une femme. Et rappeler, comme l'a dit la camarade du CIDFF, que effectivement l'écart salarial s'explique aussi, puisque dans les métiers du care, il y a 80% quand même des temps partiels qui sont faits par les femmes, et c'est pas forcément du temps partiel choisi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que qui dit temps partiel dit salaire partiel, dit carrière partielle et retraite partielle. Parce que quand même, les femmes touchent 40% de pension de retraite moins que les hommes.
Moi, pour finir, je voulais revenir un peu sur l'axe de, qu'on a choisi cette année, qui est l'axe national, qui est la lutte contre l'extrême droite. Mais on parle aussi de la lutte contre les politiques gouvernementales, parce que si on parle notamment de la loi asile-immigration, c'est des lois qui... Enfin, il ne faut pas se leurrer, c'est pas parce qu'on vient de mettre la liberté de l'avortement dans notre constitution que notre gouvernement et que la droite soutient les femmes, ou bien au contraire. Notamment la loi asile-immigration, ça fragilise encore davantage les femmes migrantes qui arrivent sur, qui, quand elles le peuvent, réussissent à arriver sur notre sol et qui sont généralement très mal accueillies par notamment les forces de l'ordre. Voilà, donc cette année, on a décidé de mettre l'accent là-dessus parce que l'urgence est là.
Merci beaucoup. Nathalie Exmelin, un dernier mot avant de nous quitter.
Oui, c'est pour le dans le cadre du 8 mars, effectivement, pensons aux droits des femmes, il y a des inégalités partout au niveau professionnel, on parlait de l'espace public, effectivement, on parlait au niveau de l'enfance aussi, l'éducation. Il faut sensibiliser les personnes. C'est vrai que la notion de patriarcat est quelque chose qui passe encore mal. On parlait tout à l'heure d'hommes et de femmes, effectivement, il y a des hommes qui sont féministes, des hommes qui se rendent compte qu'effectivement ça n'est plus possible de vivre en parallèle et non pas en harmonie, et que tant qu'on n'aura pas cette notion et ces éléments en tête, les violences faites aux femmes existeront toujours. Voilà. Les violences, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, on parle de femmes, ça peut être tout sujet de tout genre d'ailleurs, ou tout handicap. Mais en tout cas, il faut garder en tête qu'effectivement, à partir du moment où on a toujours des inégalités, c'est toujours un rapport de dominant et de dominé. Et tant qu'on aura ça et qu'on ne luttera pas contre, que ce soit sur des faits qui peuvent paraître anodins et pourtant très importants dans l'éducation, dans notre éducation, eh ben, il y aura toujours des violences intrafamiliales.
Merci beaucoup. En effet, je pense que c'est vraiment le cœur des choses, la domination et l'habituation à ce jeu de dominant et dominé qui est notamment sous-tendu par un système aussi, tout un système capitaliste et patriarcal. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus parler à ce micro. Donc rendez-vous vendredi 8 mars à 15h40 à l'Agora à Aubenas. Et puis il y a évidemment dans d'autres villes et villages d'Ardèche des choses aussi qui seront faites. On aura l'occasion d'en reparler toute cette semaine. Restez à l'écoute de Fréquence 7 puisque la meilleure de la musique, ça continue. Et en plus, à 13h, vous aurez les jardins suspendus de l'ami Olivier Horry qui viendra nous parler justement, qui fait mention des violences faites aux enfants, je pense, puisque nous sommes au mois de février. À 15h, le Telex, ce sont vos... On ne sait pas. Écoutez, à 13h, les jardins suspendus.
En mars, c'est les armes.
Oui, mais il ne les a pas encore enregistrés.
Les jardins suspendus, si.
Oh, mais oui. Donc, c'est sur les armes. À 15h, le Telex 04 75 93 30 25, ce sont vos messages, vos annonces. À 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, solidaire d'abord. À 19h, tu danses. À 20h, c'est chez Tonton, l'Amérique. La chanson de l'Afrique contemporaine. Et à 21h, Hexagone Live. Nous, on se retrouve demain pour un sujet que vous découvrirez demain. Ciao!
Merci beaucoup.